Ça va bien? Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier Pasteur Luc et le comité de l'Église du privilège qu'il me donne de pouvoir porter la parole ce matin. Et donc, merci beaucoup, c'est apprécié. Deuxièmement, j'aimerais remercier l'Église pour l'accueil que vous avez fait à moi, mais surtout à ma famille aussi. Merci l'accueil que vous avez fait à ma femme. Ma femme, elle se sent très heureuse, très contente d'être ici. Et ma fille aussi. Et donc, on a vécu, ma famille et moi, il y a environ un an et demi, un moment difficile à l'église où nous étions. Et donc, il a fallu qu'on quitte. Et pendant un an et demi, donc, nous étions en quête d'une église. Et on a fait le tour et on a cherché. Et le Seigneur a permis que pour Jessica et pour Léa Maud, ce qui était le plus important à mes yeux, ils ont trouvé une famille ici. Ils ont trouvé une chaleur ici. Et quelque chose de particulier. Et vraiment, je veux vous remercier, Église de Contact, pour ça. C'est vraiment apprécié. Et j'ai senti la même chose aussi que lorsque je suis arrivé, mois après. L'accueil que j'ai reçu ici, votre cœur, votre passion, votre amour était très chaleureux, très touchant. Et je suis vraiment heureux d'être avec vous. Donc, merci beaucoup. Il y a une raison particulière pourquoi est-ce que moi, je suis content d'être ici. Et je vais l'expliquer à la fin. Mais il y a une raison très particulière pourquoi je suis heureux d'être ici, pourquoi je suis vraiment content de pouvoir partager l'Évangile avec vous. Donc, je me présente, Ruben, Nicolas. Certaines personnes m'appellent Ruben, parce que c'est R-U-B-E-N. Et donc, en général, ce serait Ruben, mais ma mère m'a appelé Ruben, et je ne discute pas avec ma mère. Donc, c'est Ruben que je m'appelle. Je travaille depuis 3 ans comme directeur pour les groupes bibliques universitaires et collégiaux. C'est quoi? Ce que nous faisons, c'est que depuis 50 ans, le mouvement travaille pour implanter des groupes chrétiens sur tous les campus francophones dans le milieu académique, que ce soit cégep, université, dans toute la province du Québec. Mais c'est un mouvement canadien aussi qui existe dans le milieu anglophone. C'est un mouvement national qui existe au Canada et c'est un mouvement international qui existe dans le monde. D'ailleurs, au mois de juillet, du 3 au 11 juillet prochain, je dois partir en Afrique du Sud pour l'Assemblée mondiale des GBU, parce que le mouvement se retrouve dans plus de 150 pays à travers le monde, dont en Palestine, où est-ce qu'il y a des Palestiniens croyants maintenant, qui se rencontrent avec des Juifs ensemble sur les campus pour la gloire de Dieu. Okay? Au mois d'août dernier, j'ai eu le plaisir d'aller en Malaisie, 28 heures d'avion, c'est pas donné, où est-ce que j'ai rencontré d'autres responsables directeurs de moi qui venaient d'Amérique latine, des États-Unis, d'Europe, d'Asie et d'Afrique, et on a partagé ensemble comment Dieu travaille sur les campus. Et c'est juste extraordinaire d'entendre ce que Dieu fait ailleurs dans le monde. Ça te ramène, ça te fait comprendre que, un, Ruben n'est pas le centre du monde, le Québec non plus. Dieu travaille à travers le monde. En fait, ce que Dieu fait à travers le monde, j'aimerais le voir au Québec. Puis il y a une certaine jalousie que j'ai lorsque je vais dans ces rassemblements. Quand tu rencontres qu'il y a des gens en Afrique, c'est où? En Afrique, Sierra Leone, je crois, où est-ce que le responsable nous racontait, les étudiants attendent l'autobus à un certain endroit. Est-ce que ce que les étudiants de GBU ont fait, ils ont fait un concert un vendredi soir à l'endroit où les gens attendaient l'autobus. Et donc, les étudiants sont venus, et il y a eu ce concert, et 147 jeunes ont donné leur vœu au Seigneur cette soirée-là. 147. Je rêve de voir ce genre de choses arriver au Québec. Je rêve de ça. Si Dieu peut le faire ailleurs, il peut le faire au Québec aussi. Amen. Donc, nous avons ce Dieu qui est extraordinaire, ce Dieu est grand. Et donc, je me promène à travers le Québec, on essaie de rassembler des jeunes. J'ai été à Rouyn-Noranda dernièrement, dans l'autre province, là, parce que ça prend un passeport. Et c'est extraordinaire parce que à Rouyn-Noranda, tu as 8 heures d'ici, puis il faut que tu passes par le parc de la Vérendrye, puis si tu n'as pas de gaz quand tu rentres dans le parc, ben... Et puis, une bonne nouvelle, qui est en même temps une moins bonne nouvelle, c'est qu'à Rouyn-Noranda, l'autre bout du monde, là, le GBU qui est là-bas, ce sont des étudiants internationaux. Il y a une grande communauté d'étudiants internationaux qui étudient à Rouyn-Noranda. Des étudiants qui viennent d'Afrique. Comment est-ce que des Africains font pour aller vivre à Rouyn-Noranda? Ou est-ce qu'au mois de septembre, il fait déjà moins 25, je ne sais pas comment ils font? Mais la communauté chrétienne là-bas, c'est des étudiants internationaux. Et le mouvement du GBU a cette force et en même temps cette faiblesse. Et je vais conclure avec ça. 90% du visage du mouvement des GBU au Québec, ce sont des étudiants internationaux. 90%. Tellement que quand tu vas, par exemple, à Trois-Rivières, lorsque tu rentres dans le GBU, il y a des chrétiens québécois qui sont rentrés, ils ont vu le groupe, puis ils sont repartis, se disant, ah, mais ce mouvement, c'est juste pour les étudiants internationaux. Parce que c'est tout ce qu'il a vu, c'était des étudiants internationaux. Et on va aller plus précis, des Noirs. Strictement des Noirs, parce qu'ils viennent d'Afrique francophone pour la majorité. Et donc, la bénédiction que nous avons, c'est que beaucoup d'étudiants internationaux qui connaissaient le GBU dans leur pays arrivent ici, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis, donc le GBU devient leur communauté, et donc ils deviennent très nombreux ici. Mais lorsqu'un Québécois rentre, il est, lui, la minorité visible. Minorité visible dans ta maison. Et donc, l'un des défis que nous avons, donc, c'est de pouvoir rejoindre les Québécois pour pouvoir leur enseigner l'Évangile. Et donc, c'est le défi que nous avons, et nous remercions le Seigneur pour ce merveilleux travail. Donc, ça, c'est un peu pour une présentation de qui je suis. Ce matin, j'aimerais vous parler, depuis quelques mois, donc, comme le pasteur Luc disait, je suis ici, et j'aime beaucoup, comme je vais partager, ce que le pasteur Luc partage ici comme enseignement, vient beaucoup rejoindre mes convictions profondes. Puis, un des points qu'il a partagé au mois de septembre, c'était la question, puis je vais essayer de l'imiter, là. « Il est où le bonheur? » OK. Et donc, on a regardé ça, puis il a essayé d'expliquer, il était où le bonheur, puis on a dit que le bonheur était en Christ. Puis moi, ce que ça m'a fait, ça m'a amené une réflexion. Ça m'a amené la réflexion à savoir, puis tu peux mettre le prochain clip, l'autre après. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le bonheur est si important pour l'être humain? Pourquoi est-ce que l'être humain est en quête du bonheur? Et que peu importe ta culture, la religion, ta race, ta situation socio-économique et même ton orientation sexuelle, peu importe ces choses, tout être humain est à la quête du bonheur. Pourquoi est-ce que depuis le début de la création et à travers l'histoire, la quête du bonheur est l'objet principal de la quête de l'être humain? Nous savons la réponse dans le sens que Jésus-Christ est la réponse à la quête du bonheur. Mais moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que la quête du bonheur est si importante? Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est le pourquoi. On a la réponse, on sait comment, mais pourquoi c'est ça? Et donc, on va prier et on va s'engager dans le passage. Seigneur, on veut te dire merci pour la journée que tu nous offres aujourd'hui. Merci pour le temps que nous pouvons prendre. Et Seigneur, comme d'habitude, nous sommes tous assis à tes pieds. Seigneur, je n'ai absolument rien à dire à l'Église de contact. Mais toi, Seigneur, tu sais, tu connais le cœur de chacun qui est ici. Tu connais leur histoire, tu sais ce qu'ils ont vécu. Tu sais, Seigneur, ce qui tracasse leur cœur, ce qui les perturbe, tu sais ce qui les trouble, mieux que moi, Seigneur. Et donc, je prie, Seigneur, que ce message que tu as placé dans mon cœur, qui semble tellement clair dans ma tête, je prie, Seigneur, un, que tu m'aides à bien le communiquer. Et deux, que ton Saint-Esprit puisse prendre que ce ne serait-ce qu'un mot, qu'une parole, qu'une phrase, Seigneur, qui puisse rejoindre les gens dans ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et donc, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Et nous tous ici, Seigneur, nous disons, comme ton serviteur l'a dit, parle, Seigneur, parce que ton serviteur écoute. C'est ton précieux nom que nous prions ce matin. Amen. Lorsqu'on veut savoir pourquoi, et surtout pour cette question pourquoi, un des moyens de répondre à la question pourquoi, c'est d'aller à la source, à l'origine. Et donc, aussi bizarre que ça peut paraître, pourquoi est-ce que l'être humain est à la quête du bonheur? Eh bien, on trouve la réponse dans Genèse. Genèse 1 à 3 nous explique la création comme Dieu aurait voulu qu'elle soit. Genèse 1 et 2. Et donc, à la fin du chapitre 2 de Genèse, on a une image parfaite du plan de Dieu de pourquoi on existe, d'où on vient, où on est et où est-ce qu'on s'en va. Et donc, c'est dans cette source de Genèse, chapitre 2, qu'on peut trouver la réponse, ou du moins l'introduction de la réponse, mais pourquoi est-ce que le bonheur est si important? Donc, on va les voir dans Genèse, chapitre 2, le verset 7. Le texte nous dit ceci. Et donc, on parle de la création. Et donc, dans Genèse, lorsqu'on parle de la création de l'homme et de la femme, le texte nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Lorsqu'on parle de la création dans Genèse et qu'on parle par exemple des plantes, qu'on parle des poissons, qu'on parle des animaux, on dit que Dieu créa et les êtres sont devenus vivants. Les animaux sont devenus vivants. C'est qu'il y a ce qu'il y a de particulier avec l'être humain, c'est qu'on t'explique en détail qu'est-ce que Dieu a fait pour amener la vie. Ce qu'on ne fait pas pour les animaux, ce qu'on ne fait pas pour les plantes. On donne un détail particulier pour l'être humain. Et j'aimerais m'arrêter ce matin sur certains aspects. Donc, Dieu forme l'homme avec la poussière de la terre. Donc, l'homme et la femme sont formés, ils sont à terre, puis ils sont comme morts. Pas de vie, pas de souffle, rien. Ils sont à terre. Et là, ce que je trouve intéressant pour expliquer l'origine de la vie dans l'homme, de toutes les manières que Dieu aurait pu exprimer l'idée que la vie est rentrée, il utilise cette idée de « il a soufflé ». De toutes les explications que Dieu aurait pu utiliser, pourquoi dire « souffler » ? Pourquoi souffler ? Ça, c'est le genre de questions que moi, je me pose quand j'étudie la Bible. Et que je pose avec les étudiants aussi lorsqu'on étudie la Bible ensemble. Les verbes, les phrases, les mots sont importants. Et ils expliquent beaucoup de choses. Donc, souffler. Adam est à terre, et puis Dieu, qui aurait pu juste bouger ses mains pour donner la vie, il n'a pas fait ça. Il aurait pu secouer, il n'a pas fait ça. Il aurait pu secouer avec son pied, il n'a pas fait ça. Il souffle. Mais quand tu souffles, qu'est-ce que tu fais? C'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, que tu souffles à l'extérieur. Et donc, en soufflant, qu'est-ce que Dieu y a fait? Il a pris quelque chose qui était à l'intérieur de lui et qu'il a transmis dans l'être qui était à terre. Et c'est ce souffle qui s'appelle le souffle de vie que l'homme est devenu vivant. Mais ce qui était intéressé, il dit pas juste « il est devenu vivant ». Il est devenu un être vivant. Et c'est particulier. Donc, je souffle. Et le souffle qui dégage de Dieu rentre dans l'homme, et l'homme devient un être vivant. En soufflant, Dieu a introduit quelque chose qui était en lui, dans l'être humain. Est-ce que vous me suivez? OK? La question maintenant, c'est de savoir, mais qui est ce Dieu qui a soufflé dans l'être humain? Étant donné que c'est quelque chose qui est sorti de Dieu, qui est entré en lui, mais quelles sont ces particularités? Qu'est-ce que ce souffle qui sort de Dieu avait de particulier? Donc, c'est une partie de Dieu. C'est pour ça que le prochain texte. Merci. Dans Genèse 1, 27, on te dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Pourquoi? Parce que ce qui existe dans l'homme, c'est le souffle qui vient de Dieu. C'est pour cela que chaque être humain, indépendamment de sa religion, indépendamment de ses croyances, indépendamment de son orientation sexuelle, est d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Parce que c'est son souffle qu'il a mis dans chaque être humain. Ton patron qui te cœur au travail est d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Ton voisin qui nettoie pas sa cour arrière puis qui déneige toujours sa neige de ton côté est d'une valeur inestimable pour Dieu. Tout être humain est d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Qui fait que j'ai pas peur de te dire que je suis pas d'accord avec toi, parce que ce n'est pas ton opinion qui définit qui tu es. C'est la valeur que tu as devant Dieu. Et parce que le souffle de Dieu existe en toi, tu es d'une valeur inestimable. Donc oui, je peux être en désaccord avec toi, parce que le fait d'être en désaccord avec tes convictions ne change pas le fait que à mes yeux et aux yeux de Dieu, tu es d'une valeur inestimable. OK? Donc, créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, parce que le souffle de Dieu est rentré en l'être humain. Mais qu'est-ce que Dieu a communiqué en l'être humain lorsqu'il a soufflé en lui? Pour savoir ça, il faut savoir qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu représente? Et là, on va aller très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps sur ma tête d'aller dans les détails. Je prie qu'à un moment donné, nous puissions le faire. Mais on va voir quelques caractéristiques qui appartiennent à Dieu. D'ailleurs, Pasteur Luc nous en a fait quelques-uns il y a quelques mois déjà. Dieu est la personne la plus heureuse de tout l'univers, dans toute la création. Vous ne trouverez pas une personne plus heureuse que Dieu. Petite parenthèse. Quand vous pensez à Dieu, est-ce que vous considérez Dieu comme une personne heureuse pour vous? Parce que moi, j'ai grandi dans une mentalité où est-ce que Dieu, c'est un vieux monsieur assis sur sa chaise avec un bâton dans les mains et qui n'attendait le moment que je commette un péché. Et puis, ma foi, parce que dès que je frappais mon orteil sur le coin de la table, ma mère me disait, c'est Dieu qui te punit. T'as commis un péché, t'as fait une faute, c'est pour ça que t'as frappé ton pied sur la table. OK? Dieu est la personne la plus heureuse dans tout l'univers. Il n'y a personne qui est plus heureux que Dieu. Pourquoi? Prochain. Parce que Dieu est absolu. L'absolu définit le caractère de Dieu. L'absolu définit la personne de Dieu. Ça définit ce qu'il fait, ça définit qui il est. Et parce que Dieu est absolu, tout ce que Dieu fait est absolu. OK? Dieu est absolu dans ses capacités. Vas-y. Dieu est absolument autonome. Ça veut dire quoi? Dieu vit par lui-même. Dieu subsiste par lui-même. Dieu n'a pas besoin de boire, ni de manger, ni de respirer pour vivre. Dieu vit parce que Dieu vit. Dieu est absolument autonome. Il n'existe aucune autre créature dans tout l'univers qui possède cette capacité d'être absolument autonome. Une petite parenthèse. Même le diable. Le diable existe et subsiste parce que Dieu le désire. Le jour où Dieu dit « J'ai fini avec toi », c'est fini. Aucune créature dans tout l'univers possède cet absolu de dire « Je suis absolument autonome ». Deuxième chose, Dieu est absolument libre. Le texte dit « Notre Dieu est au ciel et il fait ». Dieu fait tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il n'y a absolument aucune autre créature qui possède cette capacité de faire ce qu'il veut. À qui est-ce que Dieu demande conseil pour prendre une décision? Personne. Dieu n'a besoin de conseil de personne pour faire ce qu'il fait. Dieu est absolument libre, absolument autonome, absolument libre. Dieu est absolument parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce qui s'appelle beauté, que ce soit de la beauté dans la musique, dans l'art, tout ce qui s'appelle beau découle de la perfection qui existe en Dieu. Parce que Dieu est parfait, toute beauté découle de la perfection de Dieu. Même ma femme. Intelligent. Dieu est la personne qui possède toute connaissance. Tu ne peux pas aller prendre un café avec Dieu et apprendre quelque chose à Dieu. Toute connaissance parfaite découle de Dieu. Dieu possède une connaissance qui est infinie. Rien de ce qui existe existe à l'extérieur de la connaissance de Dieu. Il n'y a rien qui existe qui peut dire « Moi, j'existe à l'extérieur de ce que Dieu est. » Non, si tu existes comme connaissance, c'est parce que Dieu a créé. Dieu a pensé. Dieu est absolument intelligent. Et parce que Dieu est absolument intelligent, Dieu est absolument sage. Toute décision parfaite découle de Dieu. OK? À un moment donné, je pourrais vous montrer ça. N'importe quelle décision que tu prends, Dieu voit les conséquences jusqu'à l'infini. Toi, tu veux t'acheter une maison dans le quartier, et puis tu souhaites tellement avoir cette maison dans le quartier, tu pries, Seigneur, parce que c'est cette maison-là que tu veux, et puis Dieu te dit non, et puis là, tu boudes. Ce que tu ne réalises pas, c'est que lorsque toi, tu penses à la maison, Dieu voit l'impact que cette maison va avoir, non pas juste sur toi, sur tes enfants, sur tes grands-parents, et il voit tous les gens qui habitent dans le quartier et l'influence qu'ils peuvent avoir sur tes enfants, et tu ne réalises pas que 10 ans plus tard, après avoir habité dans le quartier, ton enfant va tomber dans la drogue parce qu'il aura rencontré quelqu'un dans l'école. Toi, tu ne le vois pas, ça. Dieu le voit, donc Dieu dit non. On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Dieu, lui, voit à l'infini toute décision qu'on prend. Fait quand Dieu dit non pour une réponse, glorifie son nom. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Dieu est absolument sage. Tout ça définit les capacités que Dieu possède. Il est autonome, libre, parfait, intelligent et sage. Mais c'est pas tout. Tu peux lire le suivant? Dieu est aussi absolu en sa personne. Dieu est amour. Toute bonne affection parfaite découle de Dieu. Tout sentiment parfait, tout sentiment qui fait du bien, découle de l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. De même pour la paix et la joie, toute paix parfaite qui existe découle de Dieu. Toute joie parfaite qui existe découle de Dieu. Et évidemment, ici, on ne parle pas de l'amour du monde, ni de la paix du monde, ni de la joie que le monde veut offrir. On parle de l'amour, la paix et la joie qui vient d'un Dieu qui est absolu, qui est parfait en toutes choses, et en qui il n'y a aucune ombre de variation, aucune ombre d'imperfection. Et donc, c'est ce Dieu-là qui existe. Et donc, Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. C'est pour toutes ces raisons que Dieu est la personne la plus heureuse dans tout l'univers. Heureuse dans tout l'univers. Donc, qu'est-ce que ce Dieu a fait? Il a créé l'être humain. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Et qu'est-ce qu'il a soufflé? Il a soufflé tout ça dans l'être humain. Dieu a soufflé toutes ces caractéristiques qui sont à lui et toute cette personnalité qui lui appartient. Dieu a soufflé ça dans l'être humain. Et c'est parce que Dieu a soufflé toutes ces choses dans l'être humain que l'être humain est devenu un être vivant. Ce n'est pas le fait de respirer qui fait un être humain un être vivant. Ce sont les expirations de son cœur. C'est parce que Dieu a introduit l'amour dans le cœur de l'être humain, la paix, la joie qui fait d'un être humain un être humain. Ce sont les inspirations qui transcendent les choses de ce monde qui fait que nous faisons de nous des êtres humains. L'être humain possède quelque chose qu'aucun animal ne pourra jamais posséder, qu'aucune plante ne pourra jamais posséder. Ce sont ces inspirations au bonheur, à la joie, à l'amour, qui découlent de la source qui s'appelle Dieu. Nous sommes des êtres vivants, non pas parce que nous respirons, mais à cause des inspirations que Dieu a mis dans notre cœur. Cette quête de joie, cette quête du bonheur, cette quête de la paix et de l'amour, c'est ça qui fait de nous des êtres humains. Et ça, ça vient de Dieu qui a inspiré ça dans notre cœur. Pourquoi est-ce que l'être humain est en quête du bonheur? Parce que le Dieu qui est heureux a soufflé le bonheur dans le cœur de l'être humain. Et donc, nous nous sommes tous inspirés. Tout être humain est inspiré par le bonheur. Même le méchant lorsqu'il fait le mal. Il fait le mal parce que quelque part, il croit que dans le mal qu'il fait, il va lui apporter le bonheur. Il n'a pas compris, mais dans le mal qu'il fait, il cherche quelque chose. Et dans ce mal qu'il fait, il cherche une quête du bonheur. D'accord? Donc, Dieu a soufflé ça dans l'être humain, Adam et Ève, mais là, il est arrivé quelque chose de vraiment dégueulasse. Satan est intervenu dans le plan, et Satan a proposé quelque chose à l'être humain. Mange le fruit, parce qu'en mangeant le fruit, tu auras toi aussi la connaissance du bien et du mal. Et souvent, on a l'impression, parce que c'est ce que la Bible explique aussi, mais souvent on s'arrête à l'idée que le bien et le mal, c'est une question de loi. Fais ceci, tu fais bien. Fais cela, tu fais mal. Le problème, si on s'arrête à cette définition, non pas qu'elle n'est pas bonne, mais si on s'arrête à cette définition, on fait de Dieu un code de loi. Et de désobéir à Dieu, c'est désobéir à un code de loi. Le péché, ce n'est pas d'abord et avant tout de désobéir à un code de loi. Je vais demander à Luc et Louise de venir en avant pour une petite démonstration. Toi, tu restes ici. Non, tu restes comme ça. Ouais, Marc, Luc. Marc, Luc, Jean. Tu fais face à ta femme. Puis tu la regardes. Ce que j'ai dit depuis le début de la prêche est ceci. Dieu. Dieu, qui possède toutes ces absolus qu'on vient de définir, a soufflé en Adam. Souffle. OK. Adam est devenu un être vivant. Et Adam, en être vivant, vit face à face avec Dieu. Vous vous rappelez, dans Genèse, il dit, à la fin de la journée, Dieu venait dans le jardin et ils vivaient ensemble. Dieu, qui est la source du bonheur, de la paix et de la joie qui a transmis en Adam. Adam maintenant vit avec les inspirations de paix, d'amour et de joie. Et parce qu'il vit face à face avec Dieu, qui est la source, Adam est heureux.
Yes.
Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est important. C'est parce qu'il vit face à face avec Dieu que Adam est heureux, parce que les inspirations de paix, d'amour et de joie qui est dans son cœur coulent de la source et il vit en face de la source qui est en face de lui. Satan est arrivé, c'est moi, et puis voici ce qu'il a fait, et voici où se trouve le péché. Satan est arrivé, puis il a fait, Adam, quelque chose à dire, tu n'es pas obligé de rester attaché à ta source pour trouver ton bonheur. Tu peux devenir toi-même Dieu et découvrir ta propre source du bonheur. Donc voici ce que je t'invite à faire, Adam. Adam, pas besoin de ta source en arrière. Tu vas découvrir, tu vas développer ta propre source de bonheur. Donnez un exemple. Regarde la maison qui est là-bas. Est-ce qu'une belle maison ne pourrait pas devenir ta source de bonheur à la place de Dieu?
Oui. Ouais,
est-ce qu'une belle voiture de l'année ne pourrait pas devenir une belle source de bonheur à la place de Dieu? Si jamais ça ne te satisfait pas, là, une carrière professionnelle où est-ce que vraiment tout le monde t'aime et tout le monde t'adore.
Ouais.
Tu sais, où ce que tu deviens populaire, puis tout le monde t'envie, puis tout le monde voudrait faire ce que tu fais, là, ça pourrait être une source de bonheur pour toi. Tu vois, toutes les inspirations qui sont dans ton cœur, là, laisse faire Dieu, là. Regarde l'argent. Fais de l'argent. Puis à chaque fois qu'il parle comme ça, il fait ça comme ça. Regarde, c'est beau, puis tu sais, tu découvres ta propre source de bonheur, là. Puis tu sais, puis tu peux faire tes propres affaires. Puis toutes tes inspirations, là, toi, en tant qu'être humain, là, tu peux le faire. Reste là. Ça, les amis, c'est ça le péché. C'est lorsqu'on décide qu'au lieu de garder la source vers Dieu, je deviens Dieu lorsque je décide que la source de mon bonheur n'est plus en Dieu, il est en moi-même. Et que les inspirations que Dieu a soufflées dans mon cœur, aujourd'hui, au lieu de les tourner à la source, je développe de nouvelles sources. Avec les mêmes inspirations, toujours des inspirations de paix, d'amour et de joie, mais au lieu de tourner ça vers Dieu, je développe moi-même ma propre source. Et c'est ça le péché. Lorsque je dis à Dieu, toi qui es parfait dans tout ce que tu es, parfait dans ta sagesse, parfait dans ton intelligence, parfait dans ta sagesse, parfait dans ton amour, parfait dans ta joie, parfait dans ta paix, je décide librement et volontairement de dire non à cette perfection. Quelle insulte qu'on fait à Dieu. Merci. Merci Luc. Merci Louise. Et on se retrouve avec une humanité qui vit comme ça maintenant. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste, si je ne me trompe pas, c'est le prochain... Ouais. Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit ceci, lorsque Salomon était en réflexion. Et en parlant de Dieu, fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur, quoi? La pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, c'est quoi? C'est le fait que nous avons ces inspirations au bonheur, ces inspirations à la joie puis à la paix. Ce sont les pensées de l'éternité. Pourquoi? Parce que toutes ces inspirations viennent de la personne qui vit éternellement. Et parce que ces désirs viennent de la personne qui vit éternellement, ce sont ces pensées qui viennent habiter. Et donc, c'est de l'éternité que viennent les pensées de l'éternité. Et c'est cette folie que nous avons en tant qu'êtres humains que de penser que le matériel de ce monde, les choses de ce monde, peuvent répondre à une inspiration qui lui est éternelle. Et on tombe dans cette folie de penser que oui, je peux vivre avec mes inspirations qui sont éternelles, et oui, les choses de ce monde qui sont matérielles et qui vont finir un jour vont pouvoir répondre à ce besoin. Et le monde dans lequel nous vivons court comme ça. Il court comme ça. Et c'est pour ça que le monde n'est jamais satisfait. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'artistes qui font des millions, qui sont populaires, puis qui finissent par se suicider? Parce que ça ne répond pas aux inspirations de ton cœur. Ton cœur a été fait pour être inspiré par les choses de l'éternité. Donc, si tu t'attaches aux choses matérielles, ton cœur sera constamment en besoin. Tu vas finir par avoir ce que tu désires, puis tu vas dire, c'est pas assez. J'en veux plus. Une fois que je vais avoir ma maison, je vais être heureux. T'as la maison, puis merde, ça marche pas. Ça me prend mon chalet. Fait que là, OK, on va le chalet. Ça suffit pas. Peut-être une nouvelle auto. Fait qu'on travaille puis on bûche, ça suffit pas. Et il y en a qui font la même chose dans leur couple. Si je pouvais trouver la femme idéale, je serais heureux. Trompe sur la femme, non, c'est pas la bonne. La prochaine, elle me comprend. Je te divorce, j'épouse elle. Whoop, ça marche pas non plus. Parce que tu aspires à des choses que rien en ce bas monde pourra jamais te satisfaire. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses à l'intérieur de nous. Les gens à ton travail, là, qui sont toujours de mauvaise humeur, qui ont une amertume dans leur cœur, c'est parce qu'ils cherchent profondément et qu'ils n'arrivent pas à trouver. C'est pour ça qu'ils sont fatigants. C'est pour ça qu'ils sont malléants. Puis qu'ils sont difficiles à aimer. C'est parce qu'ils cherchent, mais ils cherchent mal. Puis ils sont toujours, excusez-moi l'expression, là, mais ils sont toujours en maudit. Parce qu'il y a un désir, une inspiration dans le cœur qu'ils n'arrivent pas à répondre. Parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Petite parenthèse, c'est là que nous intervenons. C'est là que nous intervenons. Passe par-dessus le fait que la personne est mauvaise et vois le désir qui est dans son cœur. Passe par-dessus ça. D'accord? Et donc, la pensée de l'éternité qui existe dans notre cœur. OK, donc, je vais donner une pause. Je vais encore avoir besoin de vous pour la deuxième partie du message. Tu restes là. Mon Luc, avance, arrête là. Luc représente nous, l'humanité, qui est tournée vers Dieu. La Bible nous apprend que nous sommes morts. Éphésiens 2, verset 1 dit, « Nous tous qui étions morts, à cause de nos péchés. Parce que lorsqu'on se détourne de Dieu, nous devenons esclaves de nos pulsions. Parce que nous avons coupé la source, nous devenons esclaves de nos pulsions et nous ne savons plus où aller. Et donc, Adam, Luc, se trouve dans cette position où est-ce qu'il cherche le bonheur, mais peu importe ce qu'il cherche, il ne le trouve pas. Parce que l'inspiration qu'il a, c'est l'inspiration de l'éternité qui se trouve seulement qu'en Dieu. Et il cherche à l'extérieur de Dieu à répondre aux inspirations de son cœur. Le problème. Quelle est la réponse? Je vais vous montrer un passage qui est vraiment, mais vraiment intéressant. Tu peux y aller avec la prochaine slide. Dans Jean 20, verset 22, on nous explique que Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Jésus est venu, il a vécu, il est mort, il est ressuscité. Et avec le pouvoir de la résurrection, Jésus a fait quelque chose de vraiment particulier avec ses disciples avant de partir. Jean 20, verset 22 nous dit ceci. Après ces paroles, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben tiens. Dieu a donné le premier souffle qui a donné la vie à l'être humain. Jésus est arrivé puis a donné un second souffle. Le souffle du Saint-Esprit. Fait que Jésus est ressuscité, il est glorieux, il arrive devant Luc, tu es esclave de tes péchés, tu es esclave de tes pulsions, tu ne peux pas te retourner à la source, voici ce que je fais pour toi. Comme Dieu. Mais maintenant, ce qu'il reçoit, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient le libérer de son esclavage, vient le libérer de toutes ces pulsions négatives qu'il a faites. Et là maintenant, bon, avant j'étais Satan, maintenant je suis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pris Luc, puis il a fait ceci. Luc, maintenant, la conversion, la repentance. Le verbe métanoïa veut dire repentance, et donc repentance veut dire se tourner de la mauvaise voie que nous étions pour retourner vers la bonne voie. Et le Saint-Esprit est le seul qui possède cette puissance de pouvoir prendre l'être humain de ce qu'il était et de le retourner. Et le Saint-Esprit qui vient maintenant éveiller les inspirations de l'éternité qui existait dans le cœur de l'être humain, lui dit maintenant, retourne à la source. Et maintenant, le croyant, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Par le Saint-Esprit, il marche. Et toute la vie du croyant amène à ça. Ah, pas trop proche. La vie du croyant est une marche où nous marchons vers Dieu. Et qu'est-ce qui passe? C'est que, à notre mort, on passe de la vie après la vie. Et lorsqu'on arrive de l'autre côté de la vie, donne un hug à ta femme. Donne un hug. Et c'est ce que Dieu fait avec l'être humain, puis Dieu. Tout ça, il vous attend. La marche du croyant, c'est la marche de la voie de l'éternité. C'est pour ça, l'autre texte, la repentance, donc le fait que j'ai tourné, c'est la liberté de quitter la voie où nous étions et de se retourner dans la voie de Dieu à la source. Tu peux aller à la prochaine? David, dans le psaume 34, je pense que c'est le verset 6, mais ma femme s'est obstinée avec moi pour dire que c'était le verset 5. Fait quand elle a fait le PowerPoint, elle dit, regarde, on va mettre les deux, comme ça on verra. Mais je pense que c'est le verset 6. Psaume 34, verset 6, dit ceci. Quand on tourne vers lui, lui c'est qui? Quand on tourne vers Dieu les regards, qu'est-ce qu'il y a? On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Lorsque je me tourne, que je marche vers Dieu, je suis rayonnant. Pourquoi? Parce que celui que je regarde, il est rayonnant. Il est glorieux, il est majestueux. Et parce que lui est glorieux, majestueux et rayonnant, le fait que je fais face à lui fait en sorte que moi, je deviens rayonnant aussi. C'est pour ça que Moïse, quand il rencontrait Dieu, qu'est-ce qu'il avait? Son visage était rayonnant. Parce qu'il était face à face avec Dieu. Donc, je suis rayonnant, mais pas juste rayonnant, je suis rayonnant de joie. Parce que le Dieu que je regarde est un Dieu qui est parfaitement heureux. Et donc, la joie qui habite en Dieu vient rayonner sur moi. Et donc, lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Question. Lorsque vous rentrez au travail, est-ce que les gens voient en vous des gens qui rayonnent de joie? Est-ce qu'ils voient cette réalité? Pour qu'ils te posent la question, pourquoi toi, tu es comme ça? Qu'est-ce que toi, tu as qui fait que tu es comme ça? Parce que je le veux, moi aussi. OK? L'autre passage. David qui dit, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ce n'est pas la voie de marcher sur des règles. C'est la voie de marcher par l'amour de Dieu. Parce que je vis face à face avec Dieu et je marche dans la joie, dans la voie de Dieu, la voie de l'éternité. J'arrive à ma conclusion maintenant. Vas-y avec le prochain. Ça, c'est un passage qui m'a toujours intrigué. Toujours intrigué. Parce que moi, dans ma tête, ça ne faisait pas de sens, cette phrase-là. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je dis, non, ça ne fait pas de sens. C'est là où est ton cœur que sera aussi ton trésor. Mais Jésus donne un principe ici, extrêmement important. Le cœur n'est jamais celui qui dirige. Je reprends. Le cœur n'est jamais celui qui dirige. C'est le trésor qui dirige le cœur. C'est le trésor qui dirige le cœur. Le cœur a été créé pour être inspiré. Le cœur a été créé pour être en admiration. Le cœur a été créé pour être émerveillé. Émerveillé par qui? Par Dieu. Être en admiration par qui? Par Dieu. Et donc, le cœur est continuellement en quête d'émerveillement. Et donc, le cœur qui suit l'émerveillement va suivre la chose ou la personne qui va l'émerveiller. Et donc, le cœur ne dirige pas parce que le cœur est toujours en quête. Qu'est-ce qui va m'émouvoir? Qu'est-ce qui va m'émerveiller? Qu'est-ce qui va me transformer? Donc, c'est pour ça que Jésus dit que là où est ton trésor, ton cœur va suivre parce que ton cœur a constamment besoin d'être émerveillé. Si c'est la popularité qui va émerveiller ton cœur, tu vas chercher la popularité. Si c'est les études ou l'argent ou le sexe qui émerveille ton cœur, c'est ce que ton cœur va suivre. Si ton cœur est émerveillé par Dieu, s'il est allumé par Dieu, s'il est touché par Dieu, ton cœur va suivre Dieu. Le cœur suit ce qui l'émerveille. Et donc, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est pour ça que, dans le proverbe, je ne sais pas si je l'ai mis. Vas-y donc, le prochain. OK, pas tout de suite. C'est pour ça que l'auteur va dire, « Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, c'est l'Éternel. Alors fais de lui tes délices. Fais de l'Éternel tes désirs, tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire le plus. Et ce que ton cœur désire le plus, c'est l'Éternel. » OK? Vas-y avec le prochain. Y en a-tu un après? Il est supposé avoir Jean 17, verset 3. Ah bon. Si quelqu'un peut regarder dans sa Bible pour moi, Jean 17, verset 3. Un passage que je connais par cœur, mais je veux que vous le regardiez avec moi parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Jean 17, verset 3. Dans mon ancienne église, qui était typiquement haïtienne, on avait l'habitude de dire, pour trouver les passages, « Vous y êtes? » Et là, la foule devait répondre. « Nous y sommes. » Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que Jean 17, verset 3 dit? « Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, ce n'est pas le fait qu'on va marcher dans un monde où tout va être en or. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Ce qui est vraiment intéressant lorsque tu fais des études en théologie, parce que j'ai un bac en théologie, c'est qu'on t'exprime qu'il y a des concepts, il y a des mots qui ont des concepts dans la Bible qui sont vraiment intéressants. Ce mot « connaître » dans Jean 17, verset 3, a la même connotation, tu peux y aller avec le prochain, que dans Genèse, chapitre 4, verset 1. Qu'est-ce qu'on dit? Adam a quoi? A connu Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais c'est la première phrase, Adam a connu. OK? Et là, c'est un mot gentil pour parler d'intimité. Le même sens qu'a le mot connaître ici, c'est le même sens qui se trouve dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. C'est ça la vie éternelle. C'est de marcher avec Dieu et d'avoir cette intimité avec Dieu dans ma marche, avec la source que Jésus représente. C'est ça la vie éternelle. Ce n'est pas les belles promesses, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de joie, ça ce sont les conséquences de la vie éternelle. Mais tu vas voir la définition, ben c'est ça, c'est de connaître Dieu, de retourner à la source et de vivre avec cette source continuellement et de grandir dedans. D'accord? Tu peux y aller avec le prochain? Et ma conclusion. La vie chrétienne est une vie où nous marchons face à face avec Dieu, la source de notre quête du bonheur. La vie chrétienne est une vie de cœur, Dieu au centre. La vie chrétienne, c'est que je me tourne, Dieu est en face de moi, et plus je marche vers Dieu, plus sa gloire grandit. Plus mon cœur est émerveillé. Et plus j'avance vers Dieu, plus la gloire de Dieu, sa personne, ses capacités, sa perfection devient de plus en plus grande et de plus en plus intense dans mon cœur. Pourquoi? C'est ce que mon cœur recherche le plus. Fais en sorte que la vie du chrétien, Dieu est au centre. Ce n'est pas l'être humain, c'est Dieu. Une des raisons pourquoi est-ce que j'aime venir à l'église de contact, pourquoi je reste ici, parce que depuis que je suis ici, dans les enseignements que le pasteur Luc donne, il met continuellement l'accent sur Christ. Et c'est ça la source de la vie éternelle, les amis. Je suis fatigué de ces prêches où on parle de « si tu fais ci, tu vas avoir ça, si tu fais ça ». Puis là, on t'explique plein de principes. Je veux pas ça, moi. Parle-moi de Dieu. Il y a tellement de choses à dire sur Dieu, sur ses perfections, sur sa gloire, sur son amour. Parle-moi de Dieu. Afin que mon cœur soit ému, émerveillé, touché et que je désire me rapprocher encore plus de lui. Dieu au centre. C'est pour ça que je vous aime. C'est pour ça que je suis content d'être ici. Parce que nous sommes une communauté qui marchons face à face avec Dieu et qui faisons de Dieu, Dieu au centre. Que le Seigneur vous bénisse.
Je sais que j'ai une marche avec Dieu, mais je pense que je n'ai jamais marché.